Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Pierre Olivier. Salut à toi.
Bonjour.
Tu représentes l'association Le ciel nous tombe sur la tête. C'est pas la première fois que tu passes à l'antenne pour que nous parlions un petit peu des épandages aériens, de ce qu'on appelle les chemtrails en anglais ou un peu partout d'ailleurs maintenant. Est-ce que tu voudrais commencer par nous parler de cette association qui s'est créé quand même il n'y a pas très très longtemps, je crois, suite notamment au mouvement que vous, localement, je me rappelle, le Dauphiné en avait parlé aussi, suite aux retombées qu'il y avait eu il y a quelques temps, au début de l'année, il me semble.
Alors moi, déjà, mon investissement au sein de ce combat, entre guillemets, c'était l'automne dernier, voilà, suite à
l'automne
de nombreuses chutes de filaments donc, qui étaient tombées. Donc ça, c'est les filaments, donc c'est des... On a su après ce que c'était, donc c'est certainement des phtalates, donc une recomposition en l'air des additifs dans les carburants pour avions qui retombent au sol. Donc il y a eu déjà plusieurs analyses de fait, des questions de poser, donc pour l'instant différents gouvernements qui ont un peu du mal à répondre et donc on attend délicatement la réponse. Et sinon, donc l'association, donc nous on l'a montée, donc on était un peu tous dans le même cas. On était donc...
C'est-à-dire des particuliers étonnés de trouver cela.
Exactement. Des particuliers, des citoyens un peu étonnés de voir qu'on se faisait quand même... il nous tombait des choses sur la tête, on va dire. Donc ça nous a un peu interpellés et on n'est pas forcément du genre militant. Là, les trois personnes qui ont monté l'association... Mais ça nous a un petit peu interpellés et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc il y a Yannick et Bruno, les organisateurs de la marche mondiale contre la géo-ingénierie, ont organisé l'année dernière, en début d'année, à Montélimar une marche. Donc ça a permis de nous rencontrer un petit peu toutes les personnes qui étaient sensibles à ce sujet. Et ensuite on a décidé donc de monter l'association pour avoir un peu plus de poids en termes juridiques ou quand on écrit des courriers... au ministère, ce qu'on a fait d'ailleurs en début juillet, on a écrit au ministère de l'écologie pour avoir des réponses face à deux questions posées par des députés qui ont eu une réponse du gouvernement, mais qui n'était pas celle qu'on attendait, parce qu'ils ont encore répondu une fois que les traînées de condensation étaient normales à une certaine température, à une certaine altitude, avec un certain degré d'hygrométrie. Mais bon, ça, c'est toujours la réponse qu'ils donnent, en fait, systématiquement. Donc nous, on attendait un peu une autre réponse par rapport à ça. Et également, il y avait un autre député, Lucien de Gauchy, qui a posé une question aussi, il n'y a pas très longtemps, par rapport à des épisodes de grêle qu'il y a eu aux alentours des aéroports parisiens. Donc, où lui posait la question sur le fait que tous les aéroports en France et dans le monde ont des systèmes anti-grêle assez efficaces qui permettent donc d'envoyer en l'air autour des aéroports des particules fines pour pas que la grêle se fasse, qu'elle aille un peu plus loin.
Voilà, on avait cité ça, le tirer au mortier dans les nuages un peu.
C'est ça, en quelque sorte. Ouais. En Bourgogne, ils ont des canons, il y a une entreprise qui...
En Savoie, ça se fait bien aussi.
Beaucoup d'endroits où il y a en Californie, toutes les plaines productrices d'arbres fruitiers, il y a énormément de canons à iodure d'argent qui sont vendus. Et qui fonctionnent, du moins, ça. Il y a réellement... quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc là, pour le coup, le député avait posé une question assez intéressante. Il s'est fait un peu rire au nez par toute l'Assemblée. Mais bon, il posait une question à savoir si justement ces programmes anti-grêle autour des aéroports ne pouvaient pas générer d'autres problèmes un peu plus loin, une trentaine, quarantaine de kilomètres autour. Et c'est possible. Donc on appuie aussi sa question. Et les deux autres questions, donc celle de Gérard Batte et celle de Joël Giraud. Donc il y a aussi l'autre association qui est bien présente, qui s'appelle l'Axépica, qui a également écrit un courrier à peu près début juillet, qui a aussi eu à peu près la même réponse que nous. Donc déjà, ils sont au courant maintenant qu'on est par là, qu'on est une association et qu'on pose des questions. On a fait des flyers, il y a un site internet qui a été créé. Où justement, dernièrement, on vient de mettre un document, un vieux PDF de l'UNESCO, qui est assez intéressant, justement sur un petit peu les techniques qu'ils avaient déjà à l'époque d'épandage aérien pour générer des pluies à droite à gauche, donc sur une volonté donc globale de, de gérer un petit peu les précipitations.
Avant qu'on aille un tout petit peu plus loin, et pour des auditeurs qui débarqueraient, de quoi sommes-nous en train de parler ? Donc, les traînées de condensation qu'on voit derrière les avions, vous posez la question, un certain nombre de personnes se posent la question de savoir si elles sont complètement naturelles, comme la réponse gouvernementale que tu venais de nous faire. Il est normal qu'un pot d'échappement finalement condense à, suivant certaines pressions atmosphériques, certains niveaux d'humidité. Et ce que vous mettez en avant, c'est au moins trois possibilités d'épandage aérien volontaire où on utiliserait les avions donc pour répandre un certain nombre de particules. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire les trois applications que vous mettez en avant ?
Alors, ouais, c'est pas trois applications, qu'il y a des milliers d'applications.
Oui, voilà. On va dire trois grands thèmes.
Il y a trois grands thèmes. Un premier grand thème donc, qui est la gestion climatique. Donc,
voilà, comme dit sur ce PDF, voilà,
faire pleuvoir ou éviter des tornades, ces choses-là. Donc, arriver à injecter donc des particules en l'air, des produits chimiques qui peuvent ou non condenser.
Alors que ce serait
ou
quel
disperser.
Type, quel type de produit est-ce que...
Alors, il y a l'argent, l'iodure d'argent qui est utilisé comme noyau hygroscopique, donc pour attirer l'humidité. Ils se sont aperçus aussi que la neige carbonique était un super truc pour... Donc ça c'est en éteignant un peu les feux avec les avions, là, les Canadair, ils se sont aperçus aussi que... Toutes ces poudres qu'il y a dans l'eau, il y a des poudres avec des retardateurs de feu. Donc, c'est tout ce qu'ils mettent sur les incendies, c'est aussi plein de produits chimiques. Il n'y a pas que de l'eau. Donc, ils se sont perdus en jetant en l'air que ça pouvait aussi générer des masses nuageuses. Donc, voilà, il y a déjà, dans un premier temps, peut-être une volonté de gérer un petit peu les précipitations. Nous, on pense plus que c'est par rapport aux précipitations, parce que ça reste l'eau, quelque chose de très important sur notre planète. Hein. Les ressources... une ressource, voilà, première sans eau, on n'a rien, donc on n'a pas d'agriculture, donc c'est quelque chose de très important.
Et puis vous aviez cité à l'époque, je me rappelle dans une des émissions qu'on avait faites, le bourbier vietnamien là, qui avait
ouais, l'opération Popeye qui avait été faite voilà, pendant plusieurs mois, voire années, hein, pour augmenter les pluies, pour augmenter la mousson sur le nord Vietnam, voilà, pour mettre un peu les troupes ennemies à l'époque, donc les troupes ennemies des États-Unis. Un peu dans la bouillasse. Donc voilà, donc après il existe plein d'autres opérations qu'on peut voir, on peut trouver assez rapidement sur internet les différents essais qu'il y a eu, hein. Même on s'en cache pas, nous on a aussi des documents sur le site de l'Organisation Mondiale de la Météorologie qui explique un petit peu toutes les différentes techniques. Ce document il a plus de 10 ans, hein. Donc on trouve vraiment toutes les techniques qui servent à faire ou non des nuages ou même à disperser aussi, il existe aussi des fois, justement, les avions peuvent disperser des choses en l'air sans qu'on les voit. Ça ne laissera aucune traînée. Parce que c'est d'autres produits. Donc, il y a une partie voilà, climatique. Il va y avoir une partie là où on en parle de plus en plus avec le réchauffement. Du moins, non, pas le réchauffement, le changement climatique et l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, il y a entre autres le CO2, puis il y a d'autres gaz qui sont en augmentation dans l'atmosphère et qui créent l'effet de serre. Ouais. Sachant que, quand même, un des grands gaz à effet de serre hein, dans l'atmosphère, c'est l'humidité. Donc, la plupart de ces.
L'eau, quoi.
Ouais, c'est l'eau. Donc, toute cette eau qui est générée par le passage des avions, elle gêne aussi et elle change le climat terrestre. Et ça, c'est pris en compte et il y a différentes études et thèses qui ont été faites par. Des docteurs hein, en Toulouse, j'ai plusieurs thèses que j'ai, pareil en PDF que j'ai pu lire par rapport à ce sujet. Donc,
Le Monde avait fait d'ailleurs un très très bel article avec une carte de France assez étonnante du nombre de passages aériens, ne serait-ce que sur la France, voilà, et la ouais. création
bah là, la France,
de
oui,
nuages.
On est au centre hein, de, et puis en plus on est au bord de l'Atlantique, donc quand les perturbations arrivent sur l'Europe, elles arrivent sur la France hein, la plupart du temps. Donc, alors, on a parlé donc de climat. Là, on parle aussi de là. Donc là, on va parler de gestion des rayonnements solaires. Donc, la deuxième chose, voilà, en termes d'épandage aérien, ça va être la gestion du rayonnement solaire. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est que sur le papier. C'est une volonté de, c'est peut-être future d'injecter donc du soufre ou d'autres produits pour limiter le CO2 en l'air. Il y a d'autres choses qui peuvent aussi intervenir, comme la fertilisation des océans. Donc, c'est-à-dire que mettre des particules métalliques ferreuses dans les océans pour nourrir les phytoplanctons qui généreraient plus de photosynthèse, donc plus d'oxygène. Il y a une transformation du CO2 en oxygène. Et par rapport à la gestion du rayonnement solaire, il y avait une troisième chose. Ils pensaient aussi capter le CO2 avec des espèces de gros filtres pour arriver à, après, à les conditionner et à les stocker le carbone voilà,
dans, le sol.
Dans le sol. Donc ça, c'était, ça, c'est une deuxième partie, ce qu'on appelle la gestion du rayonnement solaire. Pareil, on peut trouver des documentations assez facilement sur, sur Internet. On nous en parle depuis déjà plusieurs années. On nous en a parlé à Télématin au début d'année. Voilà, donc il y a Olivier Boucher, un chercheur du CNRS, qui est venu en discuter donc de différentes possibilités qui pouvaient être mises en place. Et la dans les dernières applications, après connues, parce qu'il y en existe certainement beaucoup, il y a tout ce qui va être militaire. Donc là, pour
le dernier grand thème.
Le dernier grand thème, voilà, c'est vraiment, c'est militaire. Donc là,
comme arme.
Comme arme, voilà, comme déplacement pour des ondes dans l'atmosphère en mettant des métaux lourds, type aluminium, type barium, pour voilà, faire d'une certaine couche de l'atmosphère, essayer de reproduire la ionosphère, qui est beaucoup, beaucoup plus haut et qui est très, très bien pour le passage des ondes et des messages. La 4G, hein, ça passe pas pour rien. Hein. En l'air, tous ces trucs-là, la radio, on voit que ça passe de mieux en mieux. Donc, on se sert aussi maintenant. Il y a une volonté, certainement, de recréer la ionosphère à 10 000 mètres d'altitude.
Et dans ces applications militaires, ont été évoquées, par exemple, des possibilités d'épandage nanotechnologique. Il y a eu une grosse manifestation à Grenoble il y a quelques temps. Est-ce que vous vous associez à ce genre de réflexion?
Alors, c'est tellement vague et tellement complexe, en fait, le sujet des épandages aériens, que du coup, déjà, nous, on essaie de faire la part des choses, voilà, entre le militaire, le climat et la gestion du rayonnement solaire. Parce que la plupart des personnes à qui on en parle, moi aussi, hein, quand j'en parle aux gens, ils me disent « Oui, tu nous parles souvent de ça, ça, ça et ça, mais bon, il n'y a aucune preuve. » Si, des preuves, on en a des milliers, quoi. Il y a même des mécaniciens qui ont ouvertement parlé en Allemagne, il y a plein de personnes, des pilotes qui commencent un petit peu à ouvrir leur bouche. Donc doucement, on s'aperçoit voilà, qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent à ce sujet, des personnes qui ont été au cœur du truc. Hein. Donc des preuves, il y en a. Après, c'est compliqué parce que il y a tellement d'applications et c'est tellement peu légiféré que du coup... voilà. Et après, nous, on émet aussi également des hypothèses en termes militaires parce que vu que c'est sous couvert du secret défense, nous, on ne peut rien... On peut pas leur demander. Ils nous ont ouvert les portes. Hein.
C'est des rapports qui ne sont pas trouvables justement sur Internet, ou très peu. Ou alors d'anciens rapports.
Si, on peut trouver par rapport au brevet. Mais un brevet ne signifie pas que c'est efficient. Oui. Un brevet peut être déposé pendant 20 ans et puis ne pas être mis en application. Voilà, dans les derniers gros brevets bizarres qu'on a pu voir, c'était les derniers en Australie, c'était des vaccinations de masse par laser. Donc ça, c'est un brevet qui a été déposé en 2014, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est en route, hein, mais voilà, il est posé.
Ce problème des preuves, évidemment, on a toujours envie de dire, mais enfin, sur quoi vous vous appuyez? Et puis, quand bien même, c'est en fait parce que les États ne se positionnent pas. Ou est-ce que vous avez tendance à attendre, justement, qu'il y ait un État qui dise, ben oui, en fait, on le fait, et donc ça permettrait de prouver tout?
Il y a déjà des personnes qui l'ont dit, quoi. Il y a l'armée... Le ministère de l'armée allemand en 2004 a expliqué qu'il disposait du barium, de l'aluminium pour les couvertures, justement pour la facilité de transport des ondes, pour aussi pouvoir retrouver des navires enfouis sous l'eau avec des systèmes de radar, choses comme ça. Il y a le gouvernement suédois a reçu 4000 plaintes au printemps aussi. Par rapport à ses épandages, il n'a toujours pas répondu, je crois. Donc là, il peut être sanctionné d'une grosse amende. Il y a une personne qui venait de l'US Air Force, qui a pas mal témoigné aussi, qui a posé des questions à l'époque, Christine Megan, à l'US Air Force, leur demandant mais à quoi servaient justement toutes ces quantités de barium et d'aluminium, alors qu'ils ne rentraient dans aucune composition de la base. Bon, elle s'est fait un petit peu remercier rapidement, la dame, et puis on lui a dit, pareil, on peut aussi trouver des images et elle fait des petits colloques en expliquant un petit peu ce qu'elle a vu dans les bases de l'US Air Force.
Alors le but c'est quoi?
Le but c'est vraiment de faire reconnaître en fait que ça existe aussi, que c'est vraiment d'arrêter de nous faire prendre pour des fous aussi, parce qu'on n'est pas fous, nous, on est souvent pris pour des fous.
C'est ça, les éliminer du complot.
Alors pareil, donc, moi je parle plus de chemtrail par exemple, parce que ça dessert complètement le combat, parce que chemtrail s'est vite remis sur des tests conspirationnistes, on peut vite tomber aussi sur des informations où les gens ils s'en mêlent vite les pinceaux. On avait parlé un petit peu, nous aussi, on s'était aussi un peu emmêlé les pinceaux d'ailleurs, par rapport aux gènes résistants d'aluminium des plantes chez Monsanto. On avait fait un peu le raccourci trop vite sur les épandages aériens, l'aluminium et les plantes résistantes à l'aluminium, sachant que l'aluminium est aussi utilisé dans certains produits phytosanitaires pour fixer je ne sais plus quel produit, comme dans les vaccins ou comme dans ces choses-là. Mmh. On trouve de l'aluminium, on en trouve aussi dans les pesticides, donc Monsanto a tout intérêt à ce que ces plantes soient résistantes à l'aluminium, vu ce qu'ils leur mettent dans la tronche. Mmh. Donc il y avait eu des raccourcis assez vite faits justement par certains sites comme ce raccourci-là. L'aluminium, il est présent partout dans beaucoup de choses. Il n'y a pas que les avions qui l'utilisent. Il y a vraiment on en trouve de partout. Nous, ce qu'on aimerait, voilà, c'est vraiment qu'on réponde aux questions, qu'on essaie de voir aussi, parce que là, on parle vraiment de ce changement climatique. Hier, il y a eu une marche justement par rapport à ça, donc la marche pour le climat.
Le 21 septembre.
Le 21 septembre. Là, moi, je me pose un peu des questions quant à cette marche. Bon, c'est sûr que c'est bien de toujours alerter les personnes que l'homme, il fait un peu n'importe quoi, dans un sa manière de consommer, tout ça. Mais j'ai un peu peur que ce soit un peu récupéré par des grosses entreprises. À l'initiative de cette marche, il y a Havas, donc ça reste un truc de grosse pétition. Il y a la Fondation Hulot, il y a le GIEC, il y a l'ONU. C'est vraiment tous les carbocentristes. Quand je dis carbocentriste, c'est toutes les personnes qui croient vraiment dur comme fer que le changement climatique est dû uniquement au carbone et à l'influence de l'homme sur son environnement. Je pense qu'il y a davantage de choses à prendre en compte. Je ne suis pas scientifique, mais je pense qu'un bon scientifique doit aller gratter vraiment dans différents endroits. Il ne peut pas dire que c'est juste à cause du carbone. J'ai comme un peu l'impression qu'on essaie encore de diviser encore la population quant à cette histoire de carbone entre les climato-sceptiques, les personnes qui croient que ce n'est pas forcément d'origine anthropique. Et d'autres qui pensent aussi que c'est aussi par rapport... Nous, on pense que les avions ont aussi une chose là-dedans, hein, dans ce changement climatique. On demande aussi à ce que ce soit peut-être essayé, au moins pendant une période, de réduire l'altitude de vol des avions, justement pour éviter et sortir un petit peu des zones froides qui génèrent beaucoup de condensation. En anglais, ça s'appelle les ISSR, donc c'est les zones... dans l'atmosphère, par moments, il y a des zones plus ou moins froides, donc dans lesquelles sont générées ces traînées de condensation. Donc là, on peut voir ces gros quadrillages. Donc ça, c'est aussi, ça peut être aussi naturel, mais on sait pertinemment que ces traînées de condensation ont un impact local sur la météorologie. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Donc maintenant, on peut demander aussi notre association à réduire cette altitude, qui n'est pas nécessaire. Il y a plein de vols commerciaux qui ne sont pas obligés d'aller à 10 000 mètres d'altitude. S'ils réduisaient un petit peu leur altitude, voilà, ça générerait peut-être moins aussi de traînées de condensation. Donc aussi, pareil, par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté dans les années, voilà, ça fait presque 10 ans qu'on a remonté l'altitude de vol. Est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté justement de créer davantage de condensation? Donc maintenant, ce qu'on demande, c'est vraiment des réponses claires par rapport à ça. Pourquoi vous le faites? C'est pour nous sauver, dites-le nous.
Quand ils répondent que c'est ni l'un ni l'autre et que c'est juste tout à fait normal, que c'est comme ça, moi j'ai déjà entendu aussi d'autres réponses purement techniques. Par exemple, à ces altitudes de vol, on consomme moins de carburant, on peut prendre des grands courants qui nous permettent de gagner du temps sur des durées de vol. Alors là, parce qu'il y a eu des réponses quand même, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on en fait des réponses, puis on fait des réponses aussi très pragmatiques. Ah ben non, mais jamais on fera ça, nous ne faisons pas du tout de géoingénierie ou d'épandage aérien, vous hallucinez. Donc quand il y a ces réponses-là, ça ne satisfait pas pour autant.
Parce qu'on nous donne les mêmes depuis très longtemps, puis d'autres gouvernements donnent des réponses différentes. Donc on demande au gouvernement français, voilà, d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles.
C'est précisément au gouvernement français.
Bah ouais, parce qu'on reste quand même un pays quand même avec où la liberté de la presse, excusez-moi, mais on est quand même pas bien placé, hein, si on regarde un petit peu...
L'UNESCO disait que la France était libre de sa presse, mais pratiquait l'autocensure.
D'accord, donc ça résume bien le...
C'est ça.
Sachant que la plupart des grands journaux, voilà, presse écrite, ont été rachetés récemment... toute la presse sud-ouest aussi, on s'aperçoit voilà, que quand même elle n'est pas si libre que ça. Parce qu'il y a eu déjà des réponses de fait à d'autres associations dans d'autres pays. Donnez-nous d'autres réponses et soyez clairs avec les réponses que vous donnez. Pareil, l'armée nous avait ouvert ses portes, soi-disant qu'on puisse voir un peu ce qui se passait au sein de l'armée de l'air, mais ils ne vont pas nous montrer leur Mirage 2000 avec les types de produits qu'ils injectent pour... je ne pense pas... Hein, parce qu'une autre association dénonçait un petit peu l'épandage par des avions de l'armée, de nuit et compagnie. moi, j'en sais pas plus que ça. Et l'armée, ils nous répondront jamais à ce niveau-là, de toute façon.
Mmh. En fait, je pense difficile qu'il y ait des réponses qui satisfassent, en fait. Si c'est avéré et que pour l'instant, ils répondent pas depuis des années et des années, alors ils répondront pas plus. Et si c'est faux, eh bien, ils ont déjà répondu.
Oui, mais nous, on leur pose des questions par rapport à la santé, quoi. Parce que ça retombe. Quoi qu'il arrive, à un moment donné.
Moi, la pollution, d'une manière générale, voilà, par exemple. On sait très bien que la ville de Paris ou la ville de Lyon ou la ville de Grenoble souffrent régulièrement de pollution atmosphérique due principalement à son activité automobile. Il y a des gens qui ont des cancers, des choses comme ça, beaucoup trop de CO2, on respire mal, c'est complètement saturé en été.
Mais là, ils prennent pas dans les villes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le trafic aérien. D'accord ? Donc ça, déjà, c'est un truc de taré. À Paris, à côté des aéroports, c'est impressionnant. Hein.
Donc, une des propositions serait de prendre en compte l'activité aérienne dans la pollution générale et globale de la France et de la Terre. Quoi.
Elle n'est pas prise en compte pour l'instant jusqu'à... Je crois que c'est à partir... jusqu'à 900 mètres d'altitude, la pollution est prise comme un... Venant du sol. Donc c'est vraiment particulier. S'il y a des dangers par rapport aux produits qui sont épandus, parce qu'ils savent pertinemment quels produits sont épandus. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de maladies liées à notre atmosphère qui est complètement saturée. Et même dans des régions loin de villes, comme ici, nous dans le Diois, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de problèmes d'asthme et de choses comme ça. Donc qui peuvent être liés aussi à ces produits qui sont épandus. Là, tu parlais de produits aussi nanotechnologiques. La nanotechnologie, elle est partout. On peut l'ingérer, on la respire, on en a plein notre corps. On est entré dans le transhumanisme. Hein. Nos enfants, nous, on est chargés de tout un tas de produits que nos grands-parents n'avaient pas dans le corps. Ça, c'est une évidence aussi.
Alors ça, il y a des études qui prouvent, qui analysent le sol, les retombées dans le sol, ce qui traîne dans l'atmosphère. Et il y a effectivement un certain nombre de produits en flottement dont il est étonnant qu'ils y soient.
Oui. Étonnant qu'ils y soient, et puis assez tôt là aussi, parce qu'on voit les taux de barium et d'aluminium, ne serait-ce que dans les eaux de pluie, c'est assez hallucinant.
Mais quand on sait par exemple que l'aluminium est utilisé en masse dans toute la médecine, il y a forcément des usines qui fabriquent les vaccins qui vont en rejeter d'elles-mêmes. Est-ce que c'est forcément l'activité aérienne qui le fait?
Non, il y en a de partout. De toute façon, de la nano, il y en a de partout. Hein. Dans l'agroalimentaire, hein, là, je lisais un document encore il y a peu de temps sur. Parce que la France, en 2009, je crois, est un des rares pays à gérer l'industrie des nanoparticules vraiment. Et je lisais justement tout le chapitre qui était lié à l'aviation. Parce qu'il y a tout un chapitre qui est lié à l'aviation, parce qu'il y en a pas mal dans les carburants, justement. De la nano, c'est des centaines de tonnes de titane par an. Donc sachant que le titane, il entre dans beaucoup de compositions dans l'agroalimentaire. Il n'est pas encore assujetti à mettre sous les étiquettes qu'il y a des nanoparticules. Par contre, on trouve des produits où c'est marqué 100 nanoparticules qui ont prévu le coup avant. Voilà.
Oui, si on commence à l'afficher, c'est que...
Voilà, donc le titane, il est utilisé beaucoup dans les crèmes solaires, entre autres. Titane aluminium, pour réfléchir les rayons du soleil. Donc c'est, en fait, on fait un petit miroir en se mettant de la crème solaire. C'est plein de petites micro-particules
petit
très très fines, mais qui passent hein, la barrière
de la peau.
De la peau, ouais.
Donc si je devais résumer, c'est quand même vraiment une question posée sur ces particules sont là, dites-nous d'où elles viennent, pourquoi elles sont dans ces taux-là, viennent-elles d'épandage aérien ou uniquement de l'activité humaine? C'est vrai qu'en fait, c'est assez clair comme question.
Oui, parce que tout à l'heure, tu me disais par rapport... Il y a eu beaucoup de travail de fait, c'est là voilà, où je voulais revenir, par rapport au carburant d'avion, par rapport à la pollution et par rapport à... Tu disais qu'il fallait peut-être monter plus haut pour certains courants aériens et compagnie. Certes, on se sert un petit peu de ça. Et on de plus en plus a été mis en place, justement, après Kyoto, pas mal de choses pour limiter le CO2. Parce que c'est toujours le gros vilain, le CO2. Hein, c'est ça, faut savoir ça. Hein. Le CO2, c'est le gros vilain. Donc, on a tout fait pour réduire les nuisances sonores et le CO2 dans les avions. Donc là, ça fait quelques temps qu'ils bossent dessus. Donc, autant Rolls-Royce, qui est un gros, gros, gros constructeur de moteurs pour avions, que CFM ou en France, ou d'autres constructeurs pour Boeing, Airbus et compagnie. Donc, eux, ils ont respecté leurs contrats, les gars. Sauf que leur carburant, il a vraiment changé. Et il est vraiment, vraiment moins bien pour les personnels du piste. Parce que les personnels de piste, il le dit, ils ont mal à la tête, plus depuis. Ils ont envie de vomir par moment. Donc il y a le carburant a drôlement changé, la technologie a changé, il y a moins de suie. Un avion des années 90 avait beaucoup moins de traînées de condensation qu'un traîné actuellement. Parce qu'ils ont complètement changé leur, voilà, les réacteurs. Donc ça, c'est ce qui est dit. Normalement, ils ne devraient générer aucune traînée de condensation. Ces nouveaux types de moteurs ne devraient générer aucune. C'est tout fait pour. Donc c'est aussi pour ça qu'on pose des questions, parce que maintenant, il y a tellement d'informations, en fait, que trop d'infos tue l'info. Et nous, on est noyés sous un tas d'informations par rapport aux épandages aériens qui est une réalité. On voit que là, il y a aussi en Martinique et dans d'autres pays, ils se battent pour les épandages aériens de pesticides qui étaient interdits jusque-là en France, où depuis début d'année, ils ont essayé de relancer le truc. C'est aussi un problème.
En France, moi, je peux citer que le Beaujolais, par exemple, où on épand en hélicoptère ou en petit avion au-dessus des vignes, le soufre, le cuivre, enfin, ce qu'il faut pour que la vigne tienne, voire d'autres produits. Ça se fait à basse altitude.
C'est en train de changer. Je crois qu'ils veulent vraiment arrêter le truc, parce que de toute façon, voilà, ils sont en train de vraiment s'apercevoir que les pesticides, c'est 1000 fois plus dangereux que ce qu'on pensait, au final. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de médecins qui ont alerté les pouvoirs publics, justement. Il y a eu des signatures de fête, il y a quelques temps, en janvier ou février, je crois, de 1000 médecins qui se sont un petit peu mis en colère contre tout ça. Ouais.
Bon, ça fait 70 ans qu'on se balançait du pesticide en toute quiétude. Maintenant, on dit stop. Peut-être que la question sur l'épandage aérien, c'est que si c'est avéré, il faudrait s'arrêter tout de suite et pas attendre 70 ans.
Peut-être. Après, peut-être qu'ils nous sauvent la vie, je me dis. Pour rester positif. Me dit qu'ils sont en train
donc, ce serait pas mal aussi de le dire. Voilà,
dites-le nous, quoi.
Dites-le nous si c'est un grand progrès, même.
Voilà. Parce que voilà, le climat change, c'est une évidence. On voit, nous, les gens un peu passionnés de fleurs, que voilà, toutes les fleurs méditerranéennes sont en train de remonter doucement en altitude. On voit ces changements. Et on voit, tout le monde le voit, que les saisons sont différentes, qu'on est maintenant sur un modèle de deux saisons, même en France.
Un petit cycle, un peu plus réduit, plus de pluie, plus de tempêtes.
Comme ça a toujours changé, si on regarde bien dans l'échelle géologique. Voilà, il y a eu des moments où ça se réchauffait. Donc là, on est certainement peut-être sur une petite période de réchauffement, mais qui peut être aussi normale, un petit peu aidée par l'homme, mais il faut arrêter de prendre l'homme pour Dieu, quoi.
Parce que, voilà. Et par contre, l'homme pourrait se prendre pour Dieu en se disant « je vais éviter cette phase de réchauffement qui, elle, est cyclique ».
Il peut toujours, en fait, parce qu'il a toujours une solution chimique pour un problème. Donc, la science, pour sauver la science, il y a toujours ça, et ça a toujours été. Donc, on va jouer aux apprentis sorciers jusqu'à ce que... Est-ce qu'on puisse plus respirer, peut-être, mais voilà, sortez vos masques.
Je pense que c'est ça la grande question. Le ciel nous tombe sur la tête. Donc cette association, donc tu disais que vous aviez un site internet.
Oui.
Alors, il faudra s'y rendre. Le ciel nous tombe sur la tête avec plein de tirés du 6 entre chaque mot.
C'est ça.
C'est facile. Et recite-nous cette marche donc qui a lieu à Lyon, puisque la marche mondiale, c'est mondial.
Donc oui, on n'a même pas parlé, en fait.
Eh oui. Allons-y.
Oui, en fait. À la base, j'étais venu pour ça.
Quand même.
Donc cette marche du 27 septembre, quand même une semaine juste après cette marche pour le climat, donc ça, c'est très très surprenant. Donc nous, on va aussi dire qu'on est pour le climat aussi, mais on est pour le climat, mais sans produits chimiques. Parce que pour l'instant, voilà, on sait pertinemment qu'il y a énormément d'entreprises qui sont là pour faire ça, qui le font. Il y a Weather Modification, vous pouvez aller sur le site, c'est un site américain, c'est une entreprise très très sérieuse qui travaille sur la modification climatique. Il y en a plein d'autres, il y a les Thaïlandais, ils ont une flotte spéciale, on en a déjà parlé. Vous pouvez vraiment chercher tous les pays, toutes les personnes qui font des modifications climatiques par injection de produits chimiques. Donc nous, voilà, cette marche, elle est contre la géo-ingénierie, donc contre le fait de changer la météo par injection de produits chimiques. Elle est contre ces fameux chemtrails, donc ces traînées d'ordre chimique. Et ça se passe donc dans le monde entier. Il y a plus de 100 villes, donc c'est des grosses villes. Hein, c'est Rio de Janeiro, c'est New York, c'est Budapest, c'est tous les pays du monde. Il y a en Thaïlande, je crois, il y a un peu de partout. En France, il y a Paris, il y a Lyon, il y a Marseille. Il y a Perpignan, il y a une date aussi, je crois, vers Nantes ou par là-bas. Et nous, donc, l'association propose donc de se retrouver donc à Lyon à 14h, donc sur la place de la République. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien Lyon, c'est la place qui se trouve au bout de la rue de la République, justement.
Pas très loin de la gare de Perrache.
Donc pas très loin de la place Bellecour, avec ce gros chou, voilà, que les non-lyonnais connaissent bien.
Avec son sol rouge, hein,
voilà, Bellecour. Donc on va, donc il faut aller dans la grosse rue commerciale et aller donc traverser cette grande rue, aller jusqu'à la place donc de la République qui se trouve. On voit il y a une grosse fontaine avec des jets qui se croisent. On a décidé de pas faire une marche parce qu'on s'est aperçu que on arrivait à interpeller plus de personnes en restant fixe. Donc on va rester dans la rue avec les personnes de l'association et les adhérents. Et convaincu pour essayer un peu d'informer les personnes sur le sujet, voilà, ô combien sensible de ces épandages aériens.
Vous avez développé un matériel pédagogique pour aborder les gens, pour informer les gens?
Alors on a fait des petits flyers pour l'instant pour un petit peu renvoyer les gens sur le site. On est en train de mettre en place aussi des PowerPoint, choses comme ça, pour pouvoir aussi faire des interventions rapides, on va dire d'une demi-heure assez claire pour expliquer un petit peu toutes ces choses-là. Après, on est toujours à la recherche de personnes, hein, de développeurs de sites, parce qu'on a un gros site qui est assez compliqué et qui nous demande pas mal de temps. Donc, on cherche aussi encore toujours des personnes susceptibles de donner un petit peu de leur temps pour ça, ou pour aussi interpeller les personnes. Donc, par rapport à l'association, on a mis en place en fait une adhésion qui est de 15 euros. Donc, dans lesquels, une fois que les gens adhèrent, on envoie à peu près, 100 ou 200 flyers pour que les gens puissent aussi
distribuer après,
voilà. Donc, ouais. Et après, on peut en recommander à moindre coût pour informer, voilà, le maximum de personnes. Donc, ça qu'il est bien de sensibiliser toutes les personnes qui sont un petit peu la tête en l'air. Moi, toutes ces compagnies d'astronomie, ces personnes qui sont qui ont un petit peu le nez. Parce que souvent, les gens ont du mal à regarder le ciel. Ils ont souvent la tête dans leurs chaussures.
Et c'est vrai qu'il manquerait presque une batterie de professionnels du ciel à vos côtés, finalement.
Bah, pareil, nous, on fait appel à tout le monde, hein, de toute façon, aux personnes qui pourraient témoigner, qui pourraient aussi, aux pilotes, qui s'aperçoivent aussi qu'il y a des changements dans le ciel, et qui, à toutes les personnes qui pourraient, aux mêmes médecins, qui pourraient aussi voir des différences ou des épisodes d'épidémie rapide, parce qu'il en existe, hein. Donc on essaie de voir un petit peu par rapport aussi à ça, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de travail de fait sur les retombées justement de la géo-ingénierie sur les populations. Hein. Carnicom Institute a fait des gros travaux là-dessus, et j'ai encore lu une étude récente norvégienne là, sur l'impact des retombées sur les sols. Il y a beaucoup d'études d'impact en fait sur les retombées, parce qu'il y a des retombées hein, de tous ces produits qui sont épandus. Et là, dernièrement, là, de ces phtalates qui retombent maintenant depuis 2-3 semaines. Les filaments en question, là, sur pourquoi j'étais venu au tout début à monter cet assaut avec Yannick et Bruno, qui retombent encore en masse. Là. Je l'ai encore enlevé ce matin de la cabane de ma fille. Donc, observez, ça tombe toujours. Hein. Ce n'est pas l'étoile d'araignée.
Oui, j'allais citer les trois choses qu'il y a sur votre fly, et finalement ça résume assez bien: observer, comprendre et puis éventuellement agir.
Agir, ouais.
Mais en tout cas, essayer d'avoir une compréhension, et peut-être qu'avec avec le monde scientifique derrière vous, je pense qu'il y a un moment donné où plus personne pourrait dire...
On a du monde derrière scientifique. On a une personne preuve, du CNRS qui nous fait qui a un spectromètre qui peut nous faire voilà. J'ai rencontré d'autres personnes, pareil, d'autres qui peuvent le faire aussi. Donc on a déjà... trois labos différents.
Oui, mais presque qu'il faudrait que ces gens-là publient en dehors de
Il y a un rapport qui a été publié, ouais. Il y a des rapports. Maintenant, moi, j'attends plus de chutes parce que j'ai le matériel pour récupérer ces fameux filaments. J'ai le matériel voilà, qui m'a été envoyé par les scientifiques pour faire des prélèvements. Donc après, je veux bien aussi que si jamais voilà, des gens trouvent des gros amas de filaments, je veux bien, si on peut passer par la radio, être averti que je puisse venir prélever.
De toute façon, vous avez bien aussi un numéro de téléphone.
Voilà, il
hein,
y a aussi le numéro de téléphone, voilà, il y a sur le site, voilà, qu'on peut aussi rappeler.
07 80 38 30 20, que je remettrai évidemment sur le site. C'est moi qui ai le fly, alors je te fais ta com.
Ouais, merci. Et j'aimerais aussi rappeler donc la chaîne de Yannick, donc le président de l'association. Donc, une chaîne YouTube qui s'appelle The No Way To Go. Donc nulle part royer, nous où aller. Donc c'est vrai qu'on a choisi deux noms qui n'étaient pas forcément très qui ne proposaient pas grand chose, mais c'est que ça reste quand même une réalité. On est sur une planète.
C'est un peu sombre, quoi.
C'est un peu sombre, ouais. Mais je suis désolé, mais on est sur une planète. L'air, on peut pas faire autre chose que respirer l'air qui nous entoure. Donc on peut pas aller ailleurs que sur la planète. On a pas encore, moi j'ai pas encore la possibilité de le faire. Je ne sais pas comment faire. J'ai pas le matériel pour sortir de cette planète. Ouais, le nom de la chaîne de Yannick, The No Way To Go, c'est un peu une réalité. Hein. Et nous, ben, le ciel nous tombe sur la tête, c'est une évidence, parce que encore ce matin, voilà, il y a des filaments qui me tombaient sur la tête. Et moi, ça m'énerve, ces filaments qui me tombent sur la tête et qui tombent sur mon potager. Donc j'avais essayé un petit peu d'interpeller les personnes qui travaillent dans l'agriculture. Je n'ai pas eu trop de réponses. Donc j'attends de voir s'ils arrivent à voir que ça continue de tomber et que ça risque d'abîmer leur sol encore plus que ce qu'ils ne le sont là.
Eh bien, observons donc. Je crois qu'on en est encore là.
Restons vigilants, voilà. Il faut toujours, je pense, rester vigilant et se poser des questions, hein, toujours. Moi, c'est un petit peu ma marque de fabrique.
Le ciel nous tombe sur la tête, l'association avec Pierre-Olivier à l'instant, pour aussi parler de cette manifestation le 27 septembre,
donc tout ça,
14h à Lyon.
À Lyon.
Place de la République.
Place de la République. Il y a d'autres manifestations. Donc en France, vous pouvez trouver assez facilement sur Internet les autres dates et les autres lieux de rendez-vous. Donc pas les autres dates, pardon, ça reste toujours le 27, mais les autres lieux de rendez-vous. Je crois que c'est à Place de l'Opéra à Paris.
Mmh. Vous prenez la ville la plus proche de chez vous, puis vous y allez, quoi.
Voilà.
Si vous êtes à Bangkok, ça marche aussi.
Ça marche aussi. Ben, merci à Erdiwa et puis de faire notre communication.
Ben, revenez quand vous voulez.
Ouais,
ça marche. C'est le principe. Merci à toi.
Merci.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.